Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 5 novembre 2024. Voici le sommaire. Jour de vérité aujourd'hui pour des millions d'électeurs américains qui se rendent aux urnes pour départager Kamala Harris et Donald Trump, les deux principaux candidats à la magistrature suprême des États-Unis.
Je vois une nation déterminée à tourner la page de la haine et de la division et à tracer une nouvelle voie.
Parce que nous avons une grande avance et tout ce que nous avons à faire, Mike, tout ce que nous devons faire, c'est de sortir mardi et voter.
Si la vice-présidente et l'ex-président affichent leur optimisme, les autorités américaines sont sur le qui-vive et ont mis en place des mesures exceptionnelles de sécurité, notamment ici à Washington, la capitale fédérale. Nous irons prendre le pouls dans certains États, comme la Pennsylvanie et le Texas, où sont déployés les envoyés spéciaux de VOA Afrique. Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons au Ghana, où l'exploitation sauvage de l'or explose et empoisonne la population et la nature. Et au Gabon, qui vient de vibrer au rythme du Festival international des sports extrêmes. Ce sera juste avant la page des sports de Eric Manirakiza. Présidentielle américaine, donc, pour commencer les dernières nouvelles de la campagne et du vote. Et je suis en compagnie de Michel Joseph. Salut Michel.
Salut Mouhamadou.
Kamala Harris et Donald Trump étaient sur scène hier lundi pour leur ultime meeting électoraux à la veille d'un vote et aux enjeux cruciaux pour les États-Unis et le reste du monde.
Oui, cela fait 4 ans que j'attends ça et vous aussi, a lancé lundi l'ancien président à Reading en Pennsylvanie. Il a de nouveau promis de remettre sur les rails le pays qui a été détruit par les démocrates, notamment en raison de l'immigration incontrôlée, selon lui.
Kamala Harris était elle aussi en Pennsylvanie, précisément à Pittsburgh. Dans un discours d'environ 11 minutes, elle a répété que la balle est dans le camp des électeurs, les invitant à aller voter.
Oui, elle s'est engagée à offrir un leadership nouveau et de tourner le dos à la peur et la division. L'équipe de campagne de Kamala Harris a prévenu que les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne seront pas connus avant plusieurs jours et mis en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de semer le doute et le chaos sur l'intégrité de l'élection. De nouveaux bulletins de vote vont continuer d'être dépouillés plusieurs jours après l'élection. Ce n'est évidemment pas un signe de fraude, c'est juste la manière dont cela fonctionne, a expliqué lors d'une conférence téléphonique la directrice de la campagne Harris Waltz.
Les autorités américaines sont sur le qui-vive avant l'élection et ont mis en place des mesures exceptionnelles de sécurité.
Oui, le FBI a mis en place un poste de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24 heures sur 24 toute la semaine. Et dans le Nevada, l'État de Washington et l'Oregon, un contingent de la garde nationale est mobilisé pour favoriser une journée électorale sûre et sans heurts. Selon le Pentagone, au moins 17 États ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte.
Plus que quelques heures donc, les électeurs américains vont se rendre aux urnes pour choisir leur prochain président. Les sondages montrent que la course est serrée entre les candidats Donald Trump et Kamala Harris. Écoutez ce reportage de Scott Stearns, correspondant de la VOA, le récit est de Michel Joseph.
Kamala Harris a passé les derniers jours de sa campagne dans l'état pivot du Michigan, où elle a rencontré des électeurs dans un restaurant de gaufres et de poulet à Détroit. Et s'exprimant dans une église locale où elle a déclaré que les électeurs de son parti démocrate, traditionnellement associé à la couleur bleue, sont rejoints par des électeurs du parti républicain qui sont associés à la couleur rouge.
Je vois une nation déterminée à tourner la page de la haine et de la division et à tracer une nouvelle voie. Partout où je voyage, je rencontre des Américains, des États dits rouges aux États dits bleus, qui sont prêts à infléchir le cours de l'histoire vers la justice.
Donald Trump a fait campagne en Caroline du Nord, un État en plein mutation, où il a déclaré à ses partisans qu'il était confiant de gagner le jour de l'élection.
Parce que nous avons une grande avance et tout ce que nous avons à faire, Mike, tout ce que nous devons faire, c'est de sortir mardi et voter.
Monsieur Trump a dit à ses partisans que les adversaires essaient déjà de voler cette élection, selon lui.
Ils trichent dans les élections. Quand vous les confrontez, ils veulent vous mettre en prison. Réfléchissez-y, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Mais j'adore ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons prouvé quelque chose. Nous avons montré quelque chose et nous allons régler cela. Et nous devons gagner cette élection.
Lors de ce rassemblement, M. Trump a de nouveau tenu des propos qui suggéraient la violence contre ses opposants politiques, cette fois-ci contre les médias. Madame Harris estime que cette élection va au-delà de la politique partisane et de ceux qui, selon elle, cherchent à approfondir les divisions, à semer la haine, à répandre la peur et à provoquer le chaos. And I pledge to listen
to people who disagree with me. Et je m'engage à écouter les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Because you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. Parce que voyez-vous, je ne crois pas que celles qui sont désaccord avec moi soient des ennemis. In fact, I'll give them a seat at the table. En fait, je leur donnerai une place à la table parce que c'est ce que font les leaders forts.
Plus de 80 millions d'Américains ont déjà voté lors de cette élection, soit près de la moitié du nombre total d'électeurs ayant voté il y a 4 ans. Les sondages d'opinion montrent une course serrée, le dernier sondage du New York Times et du Siena College révélant une égalité à 48% pour Trump et Harris.
Si Kamala Harris et Donald Trump ont choisi de faire campagne jusqu'à la dernière minute en Pennsylvanie, c'est parce qu'il est l'État qui offre le plus grand des électeurs des États pivots. Allons maintenant justement en Pennsylvanie où nous attend George Attino de VOA Bambara. Bonjour George, quelle est la situation là-bas à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote?
Bonjour Mohamedou, avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est considérée comme le gros lot parmi les 7 États pivots qui, de l'avis de beaucoup d'analystes, vont déterminer l'issue du scrutin présidentiel. Un état clé que les deux principaux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, veulent à tout prix mettre dans leur poche. La démocrate et le républicain ont d'ailleurs tenu à être ici en Pennsylvanie ce lundi sur le terrain pour essayer de convaincre les derniers indécis. Kamala Harris a sillonné 5 villes de l'État avant de terminer par une fête géante à Philadelphie. Quant à Donald Trump, il en a fait 2 et s'est ensuite rendu à Michigan, comme en 2016 et 2020. La victoire ici est cruciale pour accéder à la Maison Blanche et c'est en Pennsylvanie que les deux candidats ont dépensé le plus d'argent dans la campagne. En 2016, la Pennsylvanie avait choisi Donald Trump avant de voter pour Joe Biden 4 ans plus tard, en 2020. Cette année, la course est trop serrée pour permettre des prédictions fiables.
Alors, vous avez rencontré des membres de la diaspora africaine là-bas, notamment la diaspora malienne. Que vous disent-ils, Georges?
Effectivement, Mohamedou, j'ai pu rencontrer des communautés africaines vivant ici à Philadelphie, où la question de l'immigration demeure la principale préoccupation durant cette élection. D'autres ont évoqué l'économie comme leur sujet de préoccupation. Signalons qu'il y a une forte communauté malienne qui a élu domicile ici à Philadelphie, plus de 3 000 selon les chiffres. J'ai pu échanger avec certains d'entre eux qui se disent inquiets et d'autres anxieux au sujet de cette élection. George Attino pour la VOA Afrique, Philadelphie.
Au Texas, les électeurs de Houston, ville largement républicaine, se mobilisent pour choisir leur prochain président. Mais l'enjeu y est aussi élevé pour plusieurs autres élections au niveau local et étatique qui retiennent l'attention des électeurs. Le point avec Nani Talani depuis Houston, au Texas.
Bonsoir Oufa. Des centaines de bureaux de vote s'ouvrent ce matin à Houston, qui est au cœur des enjeux électoraux cette année. La question de la sécurité et l'accès aux soins de santé sont parmi les préoccupations principales des électeurs de Houston. Ce climat d'insécurité inquiète particulièrement les quartiers urbains où les citoyens comme Sabrina, une Américaine d'origine algérienne, attendent des solutions concrètes. Sabrina, qui vit à Houston depuis environ 3 ans et propriétaire d'une boutique de beauté, témoigne de cette inquiétude grandissante.
J'attends un changement. On paye, tu vois, maintenant pour les taxes. En fait, beaucoup de choses. Et safety aussi. La sécurité, oui. Parce que, et aussi pour les guerres. Et pour la paix dans le monde. Parce que maintenant, il n'y a que les guerres, il n'y a que la mort, il n'y a pas de paix. Donc, je vote pour le président qui parle de la paix. Et aussi de l'assurance, de la santé. Parce que moi, personnellement, je suis malade et ça me coûte trop cher de payer mes médicaments, d'aller voir le docteur et tout ça. Et des fois, je m'abandonne, je m'ignore de ne pas y aller voir le docteur parce que tout est cher. Je paye même out of pocket pour les médicaments, pour voir certains docteurs, pour voir des spécialistes. Voilà, donc en général, c'est que je vote pour quelqu'un qui va nous donner la paix dans le monde et qui va, et même en Amérique aussi. Parce que maintenant, je vois que des crimes qui arrivent partout.
En plus de la présidentielle, les Texans décident du sort de plusieurs courses importantes. Sur le front sénatorial, les électeurs devront choisir entre le sénateur sortant Ted Cruz et le challenger démocrate Colin Allred dans une course plus compétitive que prévu. Dans le district 18 de la Chambre des représentants, les électeurs décideront entre l'ancien maire de Houston, Sylvester Turner, et Lana Setanze, qui prendra la relève côté démocrate suite au décès de la représentante Sheila Jackson Lee plus tôt cette année. Républicains et démocrates qui se livrent à un duel pour le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants à Houston vont garder un œil attentif sur la course sénatoriale et les élections des représentants dans cet État conservateur. Nanit Talani, Houston, Texas, pour VOA Afrique.
Parmi les citoyens américains qui se rendent aux urnes aujourd'hui, il y a Virginie Kasiama, habitante de North Andover, dans le Massachusetts. Cette psychothérapeute originaire de la RDC vote pour la deuxième fois à une présidentielle américaine. Nathalie Barge lui a demandé quelles sont ses priorités en tant que citoyenne américaine.
Ma priorité absolue est la protection des droits de femmes, en particulier la possibilité pour les femmes d'avoir des choix et l'accès aux soins à un coût abordable. Ma deuxième priorité est l'éducation. Nous demandons au gouvernement américain de rendre les études accessibles à tous. Ma troisième priorité est l'économie. Étant que propriétaire d'entreprise ou opératrice économique, je souhaiterais que l'on puisse continuer à soutenir les hommes et les femmes d'affaires vu les rôles importants qu'ils jouent dans la société américaine en tant que créateurs d'emplois.
Est-on divisé dans votre entourage sur les principaux candidats, en particulier dans la communauté africaine?
Pour mes compatriotes africains et africaines, il existe une tendance en Afrique à privilégier les hommes, tout comme il existe un manque de confiance dans les femmes. C'est une société patriarcale. Les femmes sont reléguées au second plan. Il y a manque de confiance à l'égard de la femme. L'on ne croit pas à ses capacités de leader. Les hommes sont très méfiants à l'égard de la femme.
Vous qui êtes démocrate, est-ce que vous avez déjà discuté avec des républicains?
Oui, nous avons des discussions avec les républicains. Même ce matin ici au bureau avec mes travailleurs, on a discuté à chacun son opinion. L'Amérique est un pays de vieille démocratie où chacun est libre d'exprimer son opinion et de soutenir le parti de son choix. Il nous arrive d'échanger de temps en temps avec les amis républicains. Après tout, nous sommes des citoyens américains et recherchons tous le bien de notre nation. Je soutiens et encourage les échanges entre démocrates et républicains. C'est une bonne chose car, dit-on, c'est du choc des idées que jaillit la lumière.
Et c'est la fin de cette page spéciale consacrée aux élections américaines, mais ne décrochez pas, dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde aujourd'hui. Mohamedou Oumfa, toujours en votre compagnie. À présent, d'autres faits marquants de l'actualité. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a ordonné la libération immédiate des mineurs ayant participé à des manifestations début août contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Des vidéos diffusées vendredi montrant plusieurs jeunes, vraisemblablement mineurs, en état de grande fébrilité ou en train de s'évanouir dans un hôpital d'Abuja, la capitale fédérale, ont fait le tour des réseaux sociaux, relançant le débat sur les violences policières. Ces images ont suscité un tollé parmi la société civile et la classe politique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a officialisé lundi le report des législatives anticipées, initialement prévues le 24 novembre, ont indiqué ses services. Monsieur Embalo a annulé le décret de juillet 2024 qui fixait les élections à cette date, a dit son conseiller politique Fernando de Filme da Silva devant les journalistes au palais présidentiel à Bissau. Selon l'avis du gouvernement, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections à la date initialement fixée, dit le décret d'annulation. Un nouveau décret devrait arrêter une nouvelle date selon la présidence. Le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du Soudan en guerre, est arrivé lundi au Caire, où il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a indiqué le porte-parole de la présidence. Le général Burhan a assisté lundi, selon le quotidien gouvernemental égyptien Al-Ahram, au 12e forum urbain mondial organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le Caire avait démenti le mois dernier les allégations du général Mohamed Hamdan Daglo, chef des paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023, selon lesquelles l'armée égyptienne aurait été impliquée dans le conflit. L'Égypte nous combat, avait affirmé le chef des FSR dans une vidéo mise en ligne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère de la Santé du Hamas a accusé lundi l'armée israélienne de bombarder et de détruire l'hôpital Kamal Adwan, le seul encore en fonction, dans le nord de la bande de Gaza, faisant état de nombreux blessés parmi le personnel médical et les patients. L'armée israélienne a dit vérifier ces informations. Elle avait auparavant indiqué opérer contre l'infrastructure et les agents terroristes dans le nord et le centre du territoire palestinien, un secteur où elle a lancé une offensive le 6 octobre, affirmant vouloir venir à bout d'unités du mouvement islamiste palestinien. La Corée du Nord a tiré tôt ce mardi une salve de missiles balistiques à courte portée, a annoncé l'armée sud-coréenne, son deuxième lancement en 5 jours. Le tir de plusieurs missiles balistiques à courte portée vers les eaux situées à l'est de la péninsule coréenne a été détecté vers 7h30 mardi, heure locale, 22h30 GMT lundi, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen. En prévision de nouveaux lancements, nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance, a ajouté l'état-major, indiquant qu'il partageait des informations avec le Japon et les États-Unis. Le président indonésien Prabowo Subianto ira en Chine cette semaine, a annoncé ce mardi Pékin, la première visite à l'étranger de son mandat au moment où il entend renforcer la position de son pays à l'international. L'ancien général âgé de 73 ans effectuera cette visite d'État de vendredi à dimanche, a indiqué dans un communiqué Hua Xiyun, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Sa visite en Chine intervient après que l'Indonésie et la Russie ont entamé lundi leur premier exercice naval conjoint. C'était tout pour l'actualité. À présent, les dossiers du jour. Au Ghana, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander une action des autorités contre le galamsey, l'exploitation de l'or sans autorisation. Elle est en plein essor dans le pays et empoisonne à la fois la nature et les populations. Les précisions avec John Lyndon.
Dans une mine d'or non agréée du Ghana, des hommes vêtus de t-shirts, de shorts et de bottes en caoutchouc pataugent dans des mares d'eau boueuse et chargées de mercure. Ils extraient des pierres à main nue et actionnent une vanne branlante à la recherche du précieux minerai. L'un d'eux, qui préfère garder l'anonymat, justifie pourquoi il s'est engagé.
Avant de commencer, je n'avais rien. Alors je me suis dit non, je dois aussi entrer et obtenir quelque chose. Lorsque j'ai commencé à extraire de l'or, je gagnais environ 60 000 CD. Alors je me suis lancé, j'ai pris des garçons et nous avons commencé à faire le galamsi.
La mine délabrée fait partie d'une activité en plein essor qui génère des moyens de subsistance et des sources de revenus informels pour l'économie ghanéenne, même si elle nuit à la santé des mineurs, pollue les cours d'eau, détruit les forêts, les plantations de cacao et alimente la criminalité.
Potentiellement, 70 à 80% des mineurs d'or n'ont pas de licence. Il s'agit donc d'une industrie très informelle, ce qui facilite l'implication du crime organisé. Mais c'est aussi à cause de l'éloignement des mines. Beaucoup d'entre elles se trouvent à la frontière internationale, en particulier dans le nord. Elles se trouvent donc dans des endroits inaccessibles. C'est facile. Il y a moins de gouvernement, il y a moins de surveillance de la part du gouvernement, il y a moins de patrouilles. L'emplacement des mines est donc pratique pour le crime organisé, pour les groupes criminels organisés.
L'industrie de l'extraction d'or sans licence, connue au Ghana sous le nom de galamsi, s'est développée à un rythme effréné cette année, les prix mondiaux de l'or ayant augmenté de près de 30%, ce qui a attiré de nouveaux entrants. Pour certains, la pratique de galamsi doit cesser.
Le galamsi doit cesser. Tous nos plans d'eau ont été pollués. Pendant combien de temps allez-vous rester assis à regarder tous ces politiciens nous faire subir cela? Non, nous ne pouvons pas. Ils disent que la vie, c'est l'eau, mais que nos masses d'eau ont été polluées. Comment pouvons-nous vivre longtemps? Ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter le galamsi parce que nous voulons vivre longtemps. Nous ne voulons pas tomber malade, nous ne voulons pas aller à l'hôpital, nous ne voulons pas avoir de problèmes rénaux. Nous voulons vivre longtemps, nous voulons profiter de la vie, même si nous n'avons pas d'argent. Nous voulons profiter de la vie. Nous disons arrêter le galamsi maintenant ou jamais.
Environ 40% de la production totale d'or du Ghana provient de petites mines par opposition aux concessions exploitées par des multinationales. Les petites mines ont produit 1,2 million d'onces d'or au cours des 7 premiers mois de l'année, soit plus que pendant toute l'année 2023, selon les données du régulateur du secteur minier ghanéen. Les dangers du galamsi sont nombreux. Des dizaines de mineurs ont été tués dans l'effondrement depuis ces dernières années, selon les médias et les groupes de défense et des droits de l'homme, tandis que les hôpitaux et les centres de santé font état d'un nombre élevé de décès prématurés dus à des maladies pulmonaires chez les mineurs et les habitants des villes et villages situés à proximité des mines.
Le Gabon vient de vibrer au rythme du Festival international des sports extrêmes. Pendant 3 jours, la Baie des Rois, futur centre des affaires du pays, accueillait des passionnés des sports urbains ainsi que des curieux venus découvrir l'univers du skateboard, de la trottinette, du roller ou encore de la breakdance. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Un zeste d'adrénaline, une sacrée dose d'organisation et une passion à partager au public libre-villois. Voilà les principaux ingrédients qui, 3 jours durant, viennent de réunir des centaines de participants autour du Festival des sports extrêmes à Libreville.
Nous, on a ramené 5 ambassadeurs, 2 rollers, 2 skateboards et 1 trottinette pour des petites démonstrations qui ont lieu 2 fois dans la journée.
Si les professionnels venus d'Europe étaient évidemment les stars de l'événement, les amateurs locaux se sont imposés en montrant de quoi ils sont capables.
Pour remarquer aujourd'hui, je n'ai carrément plus de voix tellement j'ai crié. Dans le jargon, on dit j'ai hypé tout le monde. Donc j'ai tellement crié que je n'ai plus de voix. Le spectacle était au rendez-vous et c'était vraiment magnifique.
Le FIS se définit comme un événement populaire et un véritable berceau des talents. Lilian, 14 ans, est médaillé d'or dans la catégorie junior de Skiller Skit.
Je pensais pas forcément être premier, vu qu'il y a mon concurrent, mon rival, D-Machine, Luc Alexandre, qui est assez fort. Ça s'est joué de très peu de points d'écart pour pouvoir gagner. Mais sinon, je suis quand même content d'avoir gagné.
Ce rendez-vous incontournable des sports urbains a fait sensation auprès du public gabonais qui en redemande.
C'est juste incroyable de voir ce qu'on est capable de faire avec un premier espace. Donc on se dit que s'il y a beaucoup plus d'espace comme celui-là, ça peut multiplier ce type d'action et ce sera à féliciter. Un sport qui a une portée mondiale et qui est aussi représenté aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a quand même matière à ce qu'un sport érigé aux Jeux Olympiques soit pratiqué au Gabon.
pour la direction de la façade maritime du champ triomphal de Libreville, promotrice du FIS, cette seconde édition a atteint ses objectifs.
Le FIS District Libreville avait pour premier objectif de permettre à la jeunesse gabonaise de pouvoir participer à un événement mondial, puisque le FIS est un des plus grands festivals de sport urbain au monde. On le retrouve en France, on le retrouve au Moyen-Orient et également en Asie. Et permettre également donc du coup à des sportifs internationaux de pouvoir former, encadrer et permettre le concours de skateurs et des riders gabonais.
En deux éditions du Festival international des sports extrêmes, le Gabon peut désormais compter sur environ 200 jeunes initiés à la pratique des sports urbains. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Athlète masculin de l'année, Noah Lyles, champion olympique du 100 mètres, n'est pas finaliste.
L'Américain Noah Lyles, champion olympique du 100 mètres, ne figure pas parmi les deux finalistes pour le titre d'athlète masculin de l'année dans la catégorie piste, a révélé lundi World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme. Les deux athlètes finalistes sont le Botswanais Letsile Tebogo, champion olympique du 200 mètres, et le médaillé d'or du 5000 mètres, le Norvégien Jacob Ingebrigtsen. L'Américain Lyles visait un doublé olympique en sprint, mais Lyles a dû se contenter de la médaille de bronze sur 200 mètres derrière Tebogo et son compatriote Kenny Bednarek. L'Équatorien Brian Pintado, médaillé d'or à Paris sur 20 km marche, affrontera l'Éthiopien Tamirat Tola, champion olympique du marathon. Dans la catégorie des concours, Mondo Duplantis, champion olympique de saut à la perche et détenteur du record du monde, sera le grand favori pour remporter le prix chez les hommes. Le Suédois sera opposé au Grec Miltiadis Tedoglou, qui a remporté l'or au saut en longueur à Paris.
Chez les femmes aussi, on connaît désormais les noms des finalistes.
Les deux finalistes de la catégorie piste sont la championne olympique du 100 mètres, Julien Alfred de Sainte-Lucie, et l'américaine Sydney McLaughlin-Levron, qui a battu son propre record du monde pour remporter le titre olympique du 400 mètres et pour la deuxième fois consécutive. La sauteuse en hauteur ukrainienne, Yaroslava Marichik, qui a battu le record du monde féminin vieux de 37 ans en franchissant 2,10 mètres 4 semaines avant de remporter l'or olympique, sera opposée à la triple championne olympique d'heptathlon, la belge Nafisa Tutiam. Toujours chez les femmes, le prix hors stade opposera la Kenyane Ruth Chepngetich, détentrice du record du monde du marathon, à la néerlandaise Sifan Hassan, qui a remporté le marathon olympique à Paris. Les vainqueurs seront dévoilés lors d'une cérémonie prévue à Monaco le 1er décembre.
En NBA, les Spurs privés de leur coach Greg Popovich pour au moins deux matchs.
Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont indiqué lundi qu'ils disputeraient leurs deux prochains matchs sans leur emblématique entraîneur Greg Popovich, annoncé malade par ESPN. D'après le diffuseur ESPN, Popovich a souffert d'un problème de santé avant le match de samedi et va être remplacé à la tête de l'équipe par son assistant Mitch Johnson pour une durée indéfinie.
Merci Eric. Et c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'information continue 24 heures sur 24 sur notre site web voaafrique.com ainsi que sur nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM,
Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.